Chapitre 3 Épicure. La mort n'est rien pour nous. Le sage ne pense ni que vivre est ennuyeux, ni que ne pas vivre est un mal. Un restaurant vient d'ouvrir à côté de chez moi, dont le nom n'engage à rien de très appétissant, le jardin d'Épicure. Par pur corporatisme philosophique, je m'y suis risqué et, contre toute attente, j'y ai fort bien mangé. Le repas fut riche, raffiné, arrosé d'un excellent vin. Pourtant, si l'établissement avait suivi de près les recommandations culinaires du philosophe éponyme, j'aurais dû me contenter de pain d'orge et d'eau. Car, pour les épicuriens, il ne s'agit pas de faire bonne chère, seulement de répondre aux cris de la chair. Ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Soyez-en satisfaits et vous serez heureux comme un dieu. Je cite là presque exactement les mots d'Épicure rapportés dans les Sentences Vaticanes. Le cri de la chair, c'est ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Car celui qui est dans ces états et qui s'attend à y demeurer pourrait rivaliser en bonheur même avec Zeus. Quant à mes remarques sur la cuisine épicurienne, je les tire de ce passage de la lettre à Ménécée. Des saveurs simples procurent un plaisir égal à celui d'un régime coûteux une fois qu'a été supprimée la douleur venant du besoin. Et le pain d'orge et l'eau procurent les plus grands des plaisirs quand ceux qui y goûtent en ont besoin. Le véritable jardin d'Athènes, où le véritable Épicure fonda son école en -306, n'avait certainement rien du lieu de débauche, de beuverie et d'orgie que certains de ses détracteurs ont dépeint. Diogène Laërce rapporte quelques-unes de ses calomnies. Timocrate, frère de Métrodore et déserteur de l'école d'Épicure, dit dans l'ouvrage intitulé « Les joyeux convives » qu'il vomissait deux fois le jour par suite de ses excès de table. Épicure était tellement épuisé par la débauche que pendant nombre d'années, il n'avait pu sortir de sa litière. Il vivait avec Métrodore dans la compagnie d'une foule de prostituées. La caricature s'est pourtant perpétuée sous une forme adoucie jusque dans notre langage ordinaire où l'adjectif épicurien en est venu à signifier quelque chose comme « enclin à goûter à tous les plaisirs », en particulier ceux de la table. Si bien qu'Épicure a le grand honneur d'être le philosophe le plus cité par les enseignes de restaurateurs. S'ils tiennent absolument au patronage d'un philosophe, je leur suggérerais plutôt de se placer sous l'égide de Platon, au banquet duquel le vin et l'esprit coulent à flot. L'épicurien jouisseur, ivrogne, débauché ou seulement gourmet, c'est en vérité un profond contresens. La doctrine d'Épicure prônait l'habituation à une vie d'une grande sobriété. Il n'eût peut-être pas dédaigné une bonne table si l'occasion s'était présentée par hasard, mais seulement à titre exceptionnel. Il ne faudrait surtout pas, en goûtant au luxe, perdre la saine habitude d'un régime frugal. Le bonheur que l'épicurisme propose d'atteindre réside dans une tranquillité de l'âme, un repos intérieur, une absence de troubles que les Grecs appelaient ataraxie. Ataraxia en grec, a privatif, plus tarax, trouble, c'est-à-dire littéralement absence de trouble. Ce mot a donné le nom d'un anxiolytique, l'atarax. Merveilleuse idée de marketing. Ces troubles qui empêchent d'accéder au bonheur nous viennent de désirs de diverses sortes qu'il convient donc de maîtriser pour tâcher de vivre heureux. En tout cela, les épicuriens n'expriment rien de bien original. D'autres grandes écoles de l'Antiquité, le stoïcisme et le scepticisme en particulier, établiront un lien entre bonheur et ataraxie. Et presque toutes les sagesses grecques s'accordent sur ceci que la maîtrise et la tempérance vis-à-vis de nos désirs sont indispensables pour mener une vie bonne. En quoi l'épicurisme paraissait-il donc si scandaleux qu'il en vint à être si souvent calomnié et ses adeptes considérés comme des ivrognes et des débauchés? Il y a deux points sur lesquels l'épicurisme se démarque de la plupart des pensées de l'Antiquité. Premièrement, c'est un matérialisme, et plus spécifiquement un atomisme hérité de celui de Démocrite. Notre monde, aux yeux d'Épicure, n'est qu'un amas d'atomes tombant dans le vide et rien d'autre. D'autres mondes similaires existent, qui se font et se défont au gré des déviations et des rencontres de ces petits grains insécables de matière que sont les atomes. L'ordre apparent n'est que le résultat du hasard. Cette vision avait de quoi choquer profondément la plupart des Grecs attachés à une vision ordonnée du monde où chaque être a sa place et où le pire des crimes, l'hubris, consiste à vouloir en sortir. Le mot grec « cosmos » exprime d'ailleurs à la fois l'idée d'ordre et de monde. Deuxièmement, Épicure est « hédoniste », avec deux paires de guillemets au moins qu'il faut prendre soin d'expliciter. Le mot « hédoniste » au sens non philosophique a fini par devenir une sorte de synonyme d'épicurien, là encore au sens non philosophique. Or, s'il est vrai que les épicuriens sont hédonistes, c'est en un tout autre sens et du terme épicurien et du terme hédoniste. L'hédonisme en philosophie est la thèse selon laquelle le bonheur réside dans le plaisir ou lui est immédiatement lié. Peut-on dire qu'Épicure est hédoniste en ce sens ? Oui. Dans sa lettre à Ménécée, il affirme bien sans détour que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Voilà qui paraît tout à fait hédoniste en effet. Mais s'il faut une seconde paire de guillemets à l'hédonisme d'Épicure, c'est que sa conception du plaisir est particulièrement négative et restreinte. À ses yeux, le plaisir n'est que la cessation ou l'absence de douleur. On ne jouit jamais que lorsqu'on cesse d'avoir mal. Ainsi, puisqu'avoir faim ou soif cause une douleur qu'il faut supprimer pour être heureux, contentez-vous de le faire de la façon la plus simple qui soit. Chercher en mangeant à prendre un autre plaisir que celui de faire cesser la douleur de la faim, c'est une erreur, c'est se créer un désir, donc une douleur, parfaitement inutile à la vie du corps. Selon Épicure, quand le cri de la chair se tait et que votre âme n'est agitée par aucun autre trouble, il n'y a rien qui vous sépare du bonheur même des dieux. Vivre sans souffrir, voilà tout ce qui importe. Cette vie de plaisir minimal serait la vie digne d'être vécue, la vie bonne, et c'est en cela surtout que la position d'Épicure a pu sembler choquante. Les philosophies de l'Antiquité, à l'exception du scepticisme peut-être, considéraient la vertu morale comme une part essentielle de cette vie digne d'être vécue. Or, Épicure ne donne pas tant d'importance à la vertu. Certes, la vie épicurienne semble devoir coïncider globalement avec l'idée que les Grecs se faisaient de la vie vertueuse, au sens où elle n'invite pas au crime ni aux excès, mais c'est plutôt par accident ou par convenance. Les lois ne sont en soi ni justes ni injustes, mais les enfreindre constitue une source de tracas, de troubles qu'il est préférable d'éviter. L'injustice est mauvaise, écrit Épicure, non pas en soi, mais par la crainte venant du fait que l'on soupçonne que l'on n'échappera pas à l'attention de ceux qui ont la charge de punir de telles actions. En somme, Épicure recommande de respecter les lois pour ne pas avoir à craindre de se faire prendre. C'est sans surprise qu'Épicure et les épicuriens se sont attirés les foudres de toutes les traditions, notamment religieuses, farouchement opposées aussi bien à leur matérialisme qu'à leur façon de considérer que la vie bonne est affaire de plaisir avant tout et non de vertu. Autant les traiter de pourceaux d'Épicure, se vautrant dans les plaisirs les plus vils, les cochons assurément ont bien l'air aussi hédonistes qu'eux, et cela dispense d'avoir à leur répondre trop précisément. Revenons à Épicure. Suffit-il de répondre au cri de la chair pour atteindre l'ataraxie ? Nous pouvons être agités d'une autre forme de trouble que la douleur physique. Ainsi, ayant terminé notre repas au jardin d'Épicure, alors qu'un certain engourdissement, comme un semblant de paix intérieure, tombait doucement sur la tablée, j'ai rappelé à mes convives que nous finirions tous par mourir. On m'a reproché de plomber l'ambiance. Même avec l'estomac bien rempli, nous ne sommes pas sereins face à la mort. C'est une de nos grandes peurs, et trouver un remède à ces grandes peurs qui menacent la tranquillité de l'âme est une part importante de l'enseignement d'Épicure. Ainsi, si mes convives avaient été de bons épicuriens, attirer leur attention sur la perspective de mourir ne les aurait en rien troublés, car ils se seraient souvenus du raisonnement d'Épicure démontrant en quoi craindre la mort n'a pas de sens. C'est ce passage fameux de sa lettre à Ménécée que nous allons lire. Avant cela, un dernier mot. Pour comprendre ce qu'est la mort pour Épicure, il faut comprendre comment il conçoit le phénomène de la vie. En bon matérialiste et atomiste, un corps vivant n'est à ses yeux qu'un agrégat d'atomes voué à se désagréger tôt ou tard. Aussi n'est-il pas question d'âme immortelle survivant à la mort du corps. L'âme, au sens de ce qui anime les corps vivants, ce qui les rend capables de sensations et de mouvements, c'est pour Épicure une chose matérielle et sujette à la désagrégation comme tout le reste. La mort, ce n'est que cette désagrégation. Et faut-il en avoir peur ? Épicure écrit « Accoutume-toi à penser que la mort n'est rien pour nous. En effet, tout bien et tout mal réside dans la sensation, alors que la mort est absence de sensation. En conséquence, la connaissance correcte que la mort n'est rien pour nous rend la condition mortelle de notre vie joyeuse, non en ajoutant un temps infini, mais en nous débarrassant du désir d'immortalité. Car il n'y a rien d'effrayant à vivre pour celui qui a correctement compris qu'il n'y a rien d'effrayant dans le fait de ne pas vivre. Il parle donc vainement celui qui dit qu'il craint la mort non parce qu'il souffrira quand elle sera là, mais parce qu'il souffre qu'elle doit venir. Car si une chose ne cause aucune perturbation quand elle est présente, il est vain de souffrir parce qu'on l'attend. Donc, le plus terrifiant des maux, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas présente, et que lorsque la mort est présente, nous n'existons plus. Ainsi n'est-elle rien ni pour les vivants, ni pour les disparus, puisque pour les premiers, elle n'est pas, et que les seconds ne sont plus. Mais la plupart des gens fuient parfois la mort comme le plus grand des maux, alors que parfois ils la choisissent comme libération des maux de la vie. Mais le sage ni ne repousse la vie, ni ne craint de ne pas vivre, car il ne pense ni que vivre est ennuyeux, ni que ne pas vivre est un mal. Épicure, lettre à Ménécée. L'argument du premier paragraphe, dont tout le reste découle, est d'une simplicité déconcertante. Pour Épicure, le seul véritable mal, et donc la seule chose qu'il soit légitime de craindre, c'est la douleur, c'est le fait de souffrir. Or, pour souffrir, il faut être vivant. La mort n'est pas une douleur, elle est justement la privation de toute capacité à en ressentir. Et en cela, elle n'est pas à craindre. Notons que le passage s'achève en soulignant qu'elle n'est pas à rechercher non plus. Ce qui est à rechercher pour un être vivant, c'est le plaisir, c'est-à-dire jouir de la vie en l'absence de douleur. La mort n'offrant ainsi ni plaisir ni douleur n'est ni désirable ni redoutable. L'attitude du philosophe épicurien doit donc être l'indifférence face à la mort. Elle représente un terme neutre qui ne nous touche ni en bien ni en mal. Les épicuriens utiliseront souvent l'idée qu'il existe une symétrie entre l'état d'indifférence avant et après la vie pour illustrer ce point. Le temps qui s'est écoulé avant ma naissance ne me trouble en aucune façon et je n'ai donc pas de raison de l'être davantage par le temps qui s'écoulera après ma mort. L'épicurien latin Lucrèce écrit ainsi dans son poème de la nature des choses « De même que dans le passé nous n'avons ressenti nul désagrément quand les Carthaginois se lançaient de partout à l'attaque, de même, quand nous n'existerons plus, nous pouvons être sûrs que rien du tout ne pourra nous affecter ni émouvoir nos sens. » Du point de vue strictement épicurien, en adoptant son matérialisme et son hédonisme particulier, l'argumentation semble imparable. Mais notez que même sans admettre son point de vue sur la douleur, l'argument est déjà frappant si l'on ne croit pas en la survie d'une âme ou de quoi que ce soit de personnel après la mort. Quel peut bien être l'objet de notre peur, puisqu'elle ne peut se réaliser qu'au moment où nous avons reconnu que nous cessons d'exister et où, par conséquent, rien ne peut nous arriver, ni en bien, ni en mal. En somme, l'erreur populaire est de redouter la mort comme une sorte de malheur qui nous arriverait à nous, personnellement. Mais c'est absurde. Ma propre mort n'est tout simplement pas un état qui me concerne moi, puisque c'est par définition l'état du monde dans lequel je n'existe pas. Un état du monde où je n'existe pas. Je n'existe pas. Le ressort de l'argument d'Épicure pour nous convaincre de ne pas craindre la mort, c'est précisément d'admettre que nous n'existerons plus. Et cela ne m'a jamais rassuré plus d'une seconde. Dans la seconde qui suit, j'essaie d'envisager le sens de cette phrase et un vertige me prend. Je n'existe pas. Il me semble que l'argument d'Épicure met le doigt sur ce qui est justement le plus angoissant et déraisonnable dans la perspective de mourir. Non pas le fait que quelque chose doive m'arriver à moi, mais justement cette disparition du moi. L'absence inconcevable de ce moi que je suis là et qui essaie bien vainement de se figurer ce que ça ferait de ne plus être là, de ne plus exister. Toujours est-il que cet argument continue d'être lu, apprécié et d'en rasséréner plus d'un face à la mort. Encore un effort et vous atteindrez peut-être l'ataraxie et rivaliserez en bonheur avec les dieux. Prenez simplement l'habitude du pain d'orge et de l'eau. Pour ma part, je m'en vais cesser de penser à la mort en retournant au jardin d'Épicure pour un repas fort peu épicurien. Quelques livres pour aller plus loin. Épicure, Lettres et Maximes, Puf, 1999. Que personne ne tarde à philosopher étant jeune, ni ne se lasse de philosopher étant vieux. Ce sont les premiers mots de la Lettre à Ménécée, merveilleux texte qui synthétise en quelques pages toute la pensée éthique d'Épicure. Il en existe des dizaines d'éditions et de traductions, souvent avec d'autres de ses textes. Le recueil Lettres et Maximes, dirigé par Marcel Conche, a le mérite d'être très pédagogique et complet sur tous les aspects de l'épicurisme. Geneviève Rodis-Lewis, Épicure et son école, Gallimard, collection Folio, 1993. Une excellente introduction à la philosophie épicurienne. Le propos est à la fois rigoureux, érudit, est toujours accessible et utile à tout type de lecteur. Lucrèce, La nature des choses, livre de poche, 2002. Lucrèce a mis en vers latin toute la philosophie épicurienne et Bernard Potra a respecté cette exigence en traduisant le texte en alexandrin blanc. Le miel des vers aide à faire couler la philosophie. J'ai voulu t'exposer cette doctrine à nous, en un chant possédant le doux accent des muses, et sur elle poser la douceur de leur miel, dans l'espoir que nos vers sachent par ce moyen te retenir l'esprit tandis que tu perçois des choses de la nature en sa totalité et te pénètre bien de leur utilité. Je confesse que j'aurais volontiers consacré un chapitre à quelques passages de Lucrèce, mais il fallait faire des choix, et recommander ici cette traduction est une façon de m'en excuser.